Je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 11. Beaucoup d'entre nous ont entendu 500 fois ce texte. Peut-être certains d'entre nous l'entendront pour la première fois. Faisons comme si c'était la première pour tout le monde. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent qu'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient, et croyait en Jésus. Si tu peux, Michael, merci. Vivre au présent. Vivre le présent. Je vous ai mis une citation de Blaise Pascal, qui décidément a dit beaucoup de choses intelligentes quand même, quand on fait la somme. Que chacun examine ses pensées. Il les retrouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Et cette citation, si je l'ai choisie, c'est parce que je pense qu'elle nous décrit assez bien. Nous sommes des gens pressés en début de siècle, à la fin aussi du siècle dernier d'ailleurs aussi. Déjà dans l'instant d'après, dans ce qu'il faut faire, parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, et encore cela, et courir d'une occupation à l'autre, et faire vite, et faire tout et vite. Parce que nous sommes des êtres humains, et l'humain, l'homme, et la femme aussi, sont des êtres de projet. Et moi, je me reconnais assez dans cette incapacité de ne pas penser au présent. Ma mère, cet été, m'a rappelé une anecdote. Quand j'étais petit, chaque fois qu'elle me donnait quelque chose à faire, pour m'occuper, un jeu, un dessin, tout ce qu'on voulait. La question que je lui posais, c'était « et après ?» Cette inquiétude, une fois la tâche terminée et le jeu effectué, de ne pas avoir autre chose à faire. Et après ? Alors pour d'autres, c'est le contraire, c'est le passé qui constitue le véritable ancrage. Soit parce que les jours heureux lui appartiennent, soit parce que c'était tellement mieux avant. Mais aussi parce que pour certains d'entre nous, les choses du passé résonnent positivement ou négativement dans notre vie, et notre esprit alors, pour certains d'entre nous, se tourne plus facilement vers le passé que vers l'avenir. Je ne sais pas s'il va vouloir travailler ce matin, on va faire comme si. Voilà. Et le présent dans tout cela ? Eh bien, quoi qu'en dise Pascal, le présent fait son grand retour. Le présent est à nouveau une valeur en hausse. Le présent à la cote. Les motivations de ce retour au présent sont très diverses, et je vous en citerai simplement 3. La première, le présent sauve qui peut. Sauve qui peut parce que demain, ça sera pire qu'aujourd'hui. L'avenir nous a déçus, la science n'a pas tenu ses promesses, ça n'a pas débouché sur le progrès que nous espérions dans tous les domaines. Alors, vivons au jour le jour, hein, faute de mieux, faute d'espoir. Le présent sauve qui peut. Le présent qu'on cherche presque à capturer, pour l'arrêter, pour se sentir enfin vivre et exister au milieu de tout ce qui nous entraîne, avec quelquefois aussi la recherche de l'efficacité. Vous avez une grande mode à l'heure actuelle. C'est tout ce mouvement autour de la méditation de pleine conscience. Le, quelque part, rejoint aussi certaines démarches du yoga. Capturer l'instant présent, se sentir vivre. Et puis le présent, valeur refuge. Alors, j'ai pensé à cette notion du présent à travers un récit que j'ai vu ce matin, enfin cet été à la télévision, où une personne disait qu'elle avait tout d'un coup été touchée d'une névralgie faciale et d'une tumeur, non cancéreuse, mais d'une tumeur. Et elle concluait son discours en disant « carpe diem », ce qu'on entend souvent autour de nous, « carpe diem », ce qui veut dire « cueille le jour ». Profite du jour qui passe, d'une certaine façon. Et c'était sa conclusion dans sa situation à elle. Le présent, valeur, refuge. Si je reviens au texte de Jean, nous sommes à Béthanie, 6 jours avant la Pâque, dans un moment spécial et dans un lieu spécial. Pourquoi ? Jésus est ici sur le terrain de l'amitié. Il est chez Lazare, Marthe et Marie, frères et sœurs, liés par cet épisode si marquant qui a eu lieu peu de temps auparavant de la résurrection de Lazare. À ce moment-là, émotionnellement, Marthe et Marie avaient vécu des choses très fortes avec Jésus. D'abord, dans le reproche à son égard. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Elles avaient dit cela, Marthe et Marie, chacune à leur tour, à Jésus. Et puis, elles avaient retrouvé la joie et la résurrection de leur frère, y avait été pour l'essentiel, bien sûr. Et tout cela les avait soudées, indéfectiblement. Et même l'évangéliste Jean souligne à quel point Jésus appréciait ce trio. Il est écrit, « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. » Alors, au moment où Jésus va entamer ce parcours qui va l'amener à la croix quelques jours plus tard, c'est là qu'il revient, à Béthanie. Il est en terrain de confiance, chez des amis, des véritables amis. Et tout ce qui se passe va désormais revêtir une signification très particulière. Alors comme d'habitude, vous aimez bien ça en France, ça se fait autour d'un repas. Marthe, que nous connaissons depuis longtemps, qui a toujours l'esprit concret et pratique, fait le service. Elle est dans l'action, comme à chaque fois. Mais, voilà, à sa manière, Marie aussi va poser un acte tellement fort qu'il va stupéfier tout le monde. 1 demi-litre de parfum, l'équivalent d'une année de salaire, aucun calcul, aucune retenue, cadeau. Ce que je veux retenir ici, c'est que Marie est totalement immergée dans son acte. Elle le vit au présent, dans une générosité totale. Elle se consacre pleinement à ce moment qu'elle est en train de vivre. Marie est là, tout entière dans ce qu'elle fait, ici et maintenant. Et rien d'autre ne compte. Elle n'entend pas. Il n'y a plus rien autour. Elle n'écoute pas autre chose que son cœur. En résumé, il faut que je le fasse, je le fais. Et ce moment-là pour elle, ce présent-là, il a une valeur irremplaçable. Est-ce que nous n'avons pas en tête, nous-mêmes, le souvenir d'épisodes marquants de notre vie, de ces instants dont on ne saurait plus dire s'ils ont duré quelques secondes, quelques minutes ou plus longtemps, mais où nous étions comme en apesanteur. Est-ce que nous avons ce genre de souvenir où nous avons l'impression que le temps s'arrête, que nous vivons vraiment intensément et que l'avenir et le passé ne comptent plus? Eh bien, Marie, elle vit cela. Elle vit son changement au présent parce qu'elle a choisi de vivre pleinement la présence de Jésus, d'en profiter au maximum. Il n'y a rien de plus important. Elle est présente pour lui, il est présent pour elle. Et en faisant ça, elle a forcément bousculé l'ordre prévu des choses. Lazare mangeait, moi je le vois bien, rester tout d'un coup la bouche pleine, surpris, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vois bien Marthe, un plat entre les mains, arrêter dans sa course, suspendre le service, perturbée. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Sans doute, à ce moment-là, c'est l'imprévu qui se produit. Alors, si on pense à nous ce matin, où vagabondent nos pensées ? Là, en ce moment-là. Vers nos activités de cet après-midi, vers le repas qui nous attend, vers la journée d'hier. Est-ce que nous sommes simplement là physiquement et en ce moment même absent en réalité, ailleurs ? Où sommes-nous maintenant, en ce moment même ? À quel imprévu sommes-nous prêts ? Eh bien, c'est toujours bon de se rappeler, Adrien l'a fait dans le cadre de l'introduction, que nous sommes en présence du Dieu qui nous a invités à le rejoindre ici. Ni plus, ni moins. Et en fait, nous sommes venus ce matin réaliser une promesse. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes donc assurés, là, au moment où je parle, de la présence de notre Dieu au milieu de nous, dès lors que nous nous réunissons en son nom. Nous sommes même venus pour ça. Alors aussi, l'assurance de sa présence nous encourage à profiter de cet instant de façon particulière. Pas de flacon de parfum à offrir, c'est vrai, mais d'autres choses sans doute. Et en revanche, ce que nous pouvons offrir, c'est notre totale disponibilité. Et comme le disent les paroles d'un chant, l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi. Alors il y a bien des épisodes, hein, dans cette même période que avant la Passion, ou juste après, au cours desquels les disciples ont vécu des moments intenses. Et j'en ai choisi un seul. Celui vécu par deux personnes, vous connaissez bien, sur le chemin d'Emmaüs. Versets 13 à 35. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Mais quoi ? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour décline. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Ne sentions-nous pas notre cœur brûler en nous? Les deux disciples ont fait 11 kilomètres dans un sens, puis 11 kilomètres dans l'autre. Parce qu'entre-temps, ils ont vécu un moment d'une intensité incroyable dans la présence de Jésus, où tout d'un coup, tout s'éclaire. Toutes les pièces du puzzle se mettent les unes par rapport aux autres, et enfin on comprend. Et ce moment qui dure 2 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, peu importe, et que nous pouvons connaître aussi, le jour où nous passons par une conversion, par la conversion, eh bien c'est un moment que nous vivons comme un présent d'éternité. Alors, la question qui se pose, c'est ce présent de la présence de Jésus, c'est un jeu de mots, est-ce que je sais le vivre ? Judas, visiblement, il ne sait pas le vivre. Et ce moment l'agace profondément. Lui, il pique dans la caisse. Alors bien sûr, au moment où tout ça, ça se passe, il est là, oui, il est là, mais il n'est pas présent. Lui, il vit au conditionnel. Je vous fais faire des révisions pour les élèves avant la rentrée. Si on avait fait autrement, ça serait mieux. On aurait pu mieux faire. On aurait dû faire cela. Un peu donneur de leçons, Judas. Lui, il vit dans une dimension parallèle. Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Qu'est-ce que j'aurais pu avoir que je n'aurais plus à l'avenir, avec cet argent qui parfume toute la maison? Judas, il est soit dans le regret du passé, de ce qui vient de se produire, soit dans la déploration d'un avenir qui sera assurément pour lui moins rentable. Mais au moment clé de cet épisode, il est là, physiquement, mais il est absent, malgré les apparences. Pour nous ce matin, quels sont nos « on aurait pu » On aurait dû arriver à l'avance, mettre le poulet au four avant de partir. Quelles sont les mauvaises raisons qui nous empêchent de nous arrêter dans la présence de Christ parmi nous maintenant? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement ce moment d'abandon, de confiance? Peut-être rien pour ce matin. Pour certains, peut-être pour d'autres, des soucis et des préoccupations que nous laissons agir comme des filtres, des obstacles auxquels nous sommes en train de réfléchir, là, en ce moment même. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans le passage de Jean, c'est que Jésus ne nie pas ses soucis et ses préoccupations. Elles ne sont pas illégitimes. Et même s'il fait mine de prendre au sérieux l'argumentation de Judas, il va mettre les choses en perspective. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Je t'ai bien entendu, Judas. Ton souci des pauvres, rien à dire. Et sur ce sujet, mauvaise nouvelle, tu as du travail, car ça ne sera jamais, jamais fini. Ton avenir, tu as de quoi le remplir et l'occuper. Mais moi, là, je suis là avec vous maintenant. Maintenant. Alors pour nous aussi, les soucis que je trimballe, les préoccupations qui sont les miennes, mes engagements, m'attendent à la sortie de cette église, pour ceux qui partiront vite vers 12h, pour ceux qui partiront un peu plus lentement vers 12h45, et pour ceux qui seront en retard vers 13h, 13h15. Mais en attendant, en ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de rester assis et de le chanter ce chant, en ayant en tête tout ce que nous venons de voir à travers ce récit de Jean. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Quelques mots de conclusion. Nous l'avons dit au début de cette méditation, le présent fait son grand retour. Le présent à la côte. Quel présent ! Le refus du passé ou la peur de l'avenir ne peuvent pas nous aider à construire un présent qui nous permette de nous en tirer à bon compte. C'est la présence même de notre Dieu qui donne de la qualité à ce que nous vivons. Et sans ce sens et sans jeu de mots facile, sa présence est un présent, un cadeau. Souvent, on joue le présent contre le passé, le présent contre l'avenir, l'avenir contre le passé. Il s'agit de se souvenir que ces trois temps de notre vie ont une unité profonde. Et ce qui me le suggère toujours, c'est ce passage dans 1 Corinthiens 13, où Paul dit ceci. Aujourd'hui, là, maintenant, en ce moment, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons à venir, face à face. Aujourd'hui, maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai à venir comme j'ai été connu passé. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et réunissent, ces trois éléments réunissent notre passé, notre présent, notre avenir. Que Dieu nous aide à enrichir notre présent. Amen.